Merci Laurélie Carive et bonsoir à tous. Ce soir, nous sommes à Amiens, studio de France Bleu Picardie. Sur la route, Julie Gacon avec Yvon Croisier et Sophie Bobert. Qu'est-ce que je fais, Yvon, avec mon scotch, là ? Bah, tu vois, je camoufle la marque de cette machine à laver. Whirlpool, à Amiens, il délocalise. Bon, bah, moi, je scotche la marque. Voilà. Dans ce lavomatique, plus personne ne pourra voir le nom de cette marque américaine. C'est mon boycott à moi. C'est mon action non violente. Oui, bah, je vais pas empêcher les gens de venir laver leur linge au lavomatique. Bon, en revanche, ce qui me dérange, c'est le sèche-linge. Bah oui, c'est à Amiens qu'il est fabriqué le sèche-linge. Monsieur, c'est à vous ce linge ?
Ah ouais.
Mais vous savez, monsieur, il faut boycotter Whirlpool. Donc votre linge, soit vous l'apportez chez vous, soit si vous voulez vraiment le laver dans un Whirlpool, bah vous l'apportez en Pologne, puisqu'il délocalise en Pologne. Sécher son linge en Pologne après l'avoir lavé en Slovaquie, c'est la lessive façon Whirlpool. Le groupe américain a donc choisi de déshabiller les ouvriers de son usine d'Amiens pour rhabiller ceux de Lodz, une grande ville située entre Varsovie et Poznan, et dont les vieilles usines textiles de briques rouges ne sont au passage pas sans rappeler les bâtiments aujourd'hui désaffectés de Saint-Frère, cette fois entre Amiens et Abbeville. Quelques années plus tôt, les dirigeants de Whirlpool avaient pourtant fait des annonces prometteuses à leurs salariés de Picardie. C'était eux qui allaient fabriquer le sèche-linge nouvelle génération. N'avaient-ils pas d'ailleurs consenti à accélérer la cadence pour satisfaire aux exigences de la concurrence mondiale ? Après les avoir essorés, le groupe se sépare donc de ses 286 salariés, sans compter les intérimaires ni les sous-traitants. Arrêt des lignes prévu dans un an, entre avril et juin 2018. Bonsoir Frédéric Chantrel.
Oui, bonsoir.
Merci d'être avec nous dans les studios de France Bleu Picardie, ici à Amiens. Vous êtes délégué CFDT de Whirlpool, où votre syndicat est majoritaire. C'est certes à l'image des entreprises privées en France, on en a eu les chiffres la semaine dernière, mais c'est plus original en Picardie.
Ouais, bah écoutez, d'abord très content hein, pour la CFDT, mais en ce moment, ce qui m'importe le plus, c'est la CFDT Whirlpool et l'intersyndicale qui... Ben, va tout faire pour que ses employés s'en sortent le mieux sur un plan social que la multinationale Whirlpool met en place.
Donc l'intersyndicale est présente ce soir puisque vous êtes ici avec François Gorlia. Bonsoir à vous.
Oui, bonsoir à vous.
Voilà, vous êtes le porte-parole de la CGT à Whirlpool, une CGT qui a su arrondir les angles quand il a fallu signer en 2008 un accord qui engageait les salariés et les ouvriers de Whirlpool, l'accord Optima.
Oui, d'ailleurs, cet accord Optima, de toute manière, on a signé, on a laissé des plumes, et aujourd'hui, on va encore en laisser avec ses dirigeants. Donc, laisser perdre 14 jours de RTT et tout ce qui s'ensuit à aujourd'hui.
C'était quoi tout ce qui s'ensuit ? Il y avait 14 jours de RTT ?
Les passages aux 35 heures, pratiquement des samedis à travailler, 4 samedis obligatoires par an, des semaines de 40 heures, et ainsi de suite. Et donc, les efforts concédés nous amènent à rien au bout du compte. Quoi.
Des salaires gelés aussi pendant 7 ans.
Oui.
Voilà,
exactement.
Un volume de 550 000 sèche-linges par an. Voilà, notre troisième invité n'est pas du tout mystère. C'est vous, François Ruffin. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez pensé à notre petit chèque en blanc, j'espère. Vous êtes venu avec ?
Non, là, je suis venu sans chèque, mais en pensant au chèque que les dirigeants de Whirlpool s'octroient eux-mêmes, qui, là, s'élèvent à des millions et des millions d'euros.
Les ouvriers de Whirlpool, vous les avez rappelés au bon souvenir d'Emmanuel Macron directement, l'amiénois Emmanuel Macron, jeudi soir dans l'émission politique sur France 2. Mais en fait, en tant que journaliste à Fakir, ça fait longtemps que vous parlez d'eux.
Des Whirlpool, oui, mais enfin, de toute façon, malheureusement, c'est une histoire qui se répète. Bon, il y avait eu en 2002, il y avait le lave-linge de Whirlpool qui était parti en Slovaquie, mais il y a les papiers peints d'Abelia, il y a eu Paris au siège de France qui est parti en Roumanie, c'était des meubles, même les chips Flodor, je dis souvent, quand ils sont partis, et quand on perd même les patates en Picardie, c'est-à-dire qu'il reste pas grand-chose. Et donc c'est vrai qu'on a le sentiment de vivre éternellement la même histoire, et c'est sûr que si jamais c'était d'autres classes sociales, d'autres catégories qui étaient frappées frapper à répétition de la même manière, parce que quand ça arrive une fois, on peut se dire qu'on est surpris par ce qui se passe. Là, il n'y a pas de surprise. C'est logique, c'est rationnel, c'est fait avec la rationalité d'une calculatrice. C'est moins cher en Pologne, on part en Pologne, et voilà. Donc, il faut des réponses politiques à ça.
Une calculatrice qui dit aussi que le transport est devenu tellement peu onéreux que finalement, délocaliser, c'est tout bénef.
Ben, c'est l'une des conditions pour que ces délocalisations soient rentables. C'est que, bon, il faut que le coût du travail soit moins élevé et tout ça, mais il faut aussi que ça puisse aller vite d'un point à un autre de l'Union européenne. C'est pour cette raison qu'il y a eu des dizaines de milliers de kilomètres d'autoroutes qui ont été construits et qu'il y a eu une levée des taxes aux frontières et même de toute formalité aux frontières. Parce que si on ralentit le transport, ça veut dire que le transport se met à coûter plus cher et donc on perd du profit sur la route, quoi. Donc pour pas perdre de profit sur la route, il faut que ça aille vite et quitte à polluer aussi.
Bon, Frédéric Chantrel, François Gorlia, est-ce que vous savez combien sont payés les ouvriers polonais qui fabriqueront ce que vous produisez aujourd'hui ?
Un travailleur polonais, exactement, gagne un tiers de ce que gagne un travailleur français. Je voudrais revenir sur les transports. Whirlpool, sa plus grosse croissance l'a fait en France. Il y a 900 camions qui vont revenir de Pologne. Donc, si on met pas un étiquetage aussi au niveau du transport, parce que Whirlpool fabrique des produits verts, hein, avec ses gammes vertes, il faudrait aussi mettre donc un étiquetage pour ces délocalisations, interdire le transport, ça va faire revenir, je vous le dis, 900 camions par an. Donc ça reste quand même énorme, un marché qui, pour Whirlpool, la France, c'est leur plus gros marché. Donc si on met pas quelque chose en place, ça continuera.
Vous deviez, vous syndicat, demander à un expert d'étudier la productivité du site d'Amiens. Qu'est-ce qu'il vous a dit pour l'instant?
Il y a des experts qui sont en train de nous faire des calculs entre la productivité en Pologne, la productivité en France, quels sont les réels coûts que Whirlpool veut mettre en place en Pologne. Ces questions-là actuellement sont suivies par nos experts.
Est-ce que vous faites des bénéfices? Je ne sais pas, vous touchez sans doute une prime calculée sur les bénéfices. Est-ce que vous touchez souvent une prime sur les bénéfices, François Gorlia?
En aucune manière, on touche des primes au détriment de ce qu'eux, ils touchent. Par contre, à nous, ce n'est pas de prime du tout par rapport à tout ça.
Donc, ce qui veut dire que l'entreprise ne fait pas de bénéfices?
L'entreprise fait des bénéfices, malgré tout.
François Ruffin?
Non, j'ai deux remarques, enfin plusieurs, mais vous dites travailleurs polonais. Il faut savoir que le site se trouve en Pologne, mais il n'y aura pas que des travailleurs polonais dessus, parce qu'il y a des travailleurs bulgares ou ukrainiens. C'est toute la joie de l'Union européenne qui viendront être payés moins que les travailleurs polonais. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, là, on est sur Whirlpool, mais dans le même temps, il y a des licenciements en ce moment chez Dunlop. Il y a la fin de Magneti Marelli Automotive qui est en train de fermer. Et chez Dunlop, moi, je joue au foot tous les dimanches matin. Il y a un copain avec qui je joue au foot qui me dit la direction, elle nous dit que la qualité, elle est bonne, que la productivité, elle est bonne. Bah, le seul problème, c'est le prix, quoi. Donc voilà, le truc, il est simple. Il n'est pas sur la qualité du travail des salariés.
Le coût de la main-d'œuvre dans le coût total de la machine, quoi.
Voilà, c'est ça.
Alors, ceci dit, c'est vrai que Whirlpool utilise, selon ce qu'il arrange, la notion de site et la notion de groupe. Le site d'Amiens ne serait pas très productif, en tout cas, ne ferait pas de bénéfice d'après eux. Mais en tout cas, le groupe, lui, il se porte plutôt bien.
Ah, le groupe se porte très très bien. D'ailleurs, les quatre dirigeants de Whirlpool se sont augmentés de 5 millions de dollars leur salaire, ce qui correspond à 19% d'augmentation pour les quatre plus hauts dirigeants. Donc une action en 2012 qui est à 50 dollars et qui passe à 170 dollars en 2017, c'est un groupe qui se porte très très bien, avec 1 milliard de bénéfices. Ils ont racheté Indesit 1 milliard de dollars.
En Italie.
Donc le groupe se porte très très bien. Mais vous savez, maintenant, c'est ça, c'est la loi du plus fort, on en veut toujours plus. Et voilà, on s'expatrie. Comme disait François Ruffin, des Serbes, des Bulgares vont travailler dans ces usines polonaises. Vive l'Europe, voilà.
Bon, alors, avant de parler, c'est vrai qu'on parle toujours productivité, concurrence, on parle Europe, mais avant tout, une délocalisation, c'est un drame humain. 286 salariés chez Whirlpool, dont certains peut-être étaient les seuls à avoir un emploi dans leur famille.
Ah oui, il y en a énormément, d'emplois avec un seul emploi, ou alors qui travaillent à deux. Il y en a énormément dans notre usine.
Voilà, les ouvriers de Whirlpool sont las de parler de leur sort. Il faut pour les attendre sur le parking de l'usine à 13h, quand s'arrêtent les travailleurs du matin et que leur succèdent ceux de l'après-midi.
Thank you.
13h02, tous les ouvriers et salariés de Whirlpool quittent le travail. On n'a pas envie de donner une minute supplémentaire en ce moment.
Non, vu l'ambiance, le moral, il n'y a pas de trouble. On ne sait pas où on va, ce qu'on fait. Enfin, on attend les négociations. Pour l'instant, c'est un peu flou dans notre tête, quoi.
Vous avez embauché à quelle heure, vous ?
5h.
Donc vous êtes levé à
4h.
Ça fait combien de temps que vous êtes sur ces horaires de matin ?
Ben, 23 ans. 23 ans ici.
Comment vous avez appris cette nouvelle ? Vous étiez à la Réunion début janvier quand vous avez appris ?
Oui, j'y étais, ouais. Bah, c'est quand même un coup de massue, quoi. Bon, après, on s'y attendait plus ou moins, quoi. Ça fait quand même plusieurs années qu'on entend ça, quoi, que ça va fermer. Mais bon, on n'y croit pas, quoi. On croit toujours que c'est pour plus tard. Et puis, là, ça y est, on est dedans, quoi. On a un pied dedans. Et puis bien.
Ça ressemble à quoi, là, à l'intérieur ?
Ça
a changé ? Ben, tout l'ambiance, et puis matériellement, toutes vos machines sont encore là ?
Ah oui, pour l'instant, il n'y a rien qui bouge, quoi. On fait notre production comme prévu jusqu'à l'année prochaine, quoi. Les installations, elles ne bougent pas pour l'instant. Après, ça bougera peut-être, je ne sais pas.
Vous avez juste vu disparaître le stock de sèche-linge du jour au lendemain ?
Oui, ils ont évacué. Ils nous ont fait travailler comme des malades l'an passé, en 3-8, quoi. Ils avaient créé une équipe de nuit pendant 6 mois, puis je pense que c'était prévu. Ils ont assuré leur truc, quoi. C'est pour ça qu'ils ont expédié des milliers de machines, quoi.
C'est-à-dire, vous êtes arrivé un jour à l'usine et vous avez vu que le stock de 80 000 machines avait disparu.
Oui, enfin, moi je ne vois pas parce que c'est comme il y a plusieurs bâtiments, puis on a un dépôt à la zone, enfin, puis ailleurs encore. Donc, c'est les collègues qui me l'ont dit, quoi.
Vous aviez tous consenti à beaucoup d'efforts jusque-là ?
Oui, je pense. Hein. De toute façon, tout le monde vous l'a déjà dit. Oui. On a toujours fait des efforts. Hein. J'ai rarement vu des grèves ici, moi, depuis 23 ans. Enfin, voilà.
Donc, se mettre en grève, ça marche pas, mais ne pas faire de grève, ça marche pas non plus.
C'est vrai qu'il y a des moments où on sait pas quoi faire. Hein. Enfin, moi, je trouve qu'on est un peu coincé, quoi, dans tout ça. Quoi. On est pris en tenaille, quoi. On sait pas sur quel pied danser. Quoi. Après, faire grève, ouais. Après, c'est pour faire comme Goudjian, tout brûler, et puis... On est arrivé là, enfin je sais pas si c'est la bonne solution non plus. On sait pas quoi faire.
Il y a une certaine résignation.
Ouais, je pense. Moi personnellement, ouais. Après je fais tous les mouvements quand même avec les collègues. Hein. Là je vais aller à Paris avec eux. Mais après, faut pas que ça dépasse quoi, les bornes. De toute façon on n'a jamais rien résolu non plus par la violence, hein, je crois pas. Hein. Après, il faut se manifester quand même, on va pas non plus sauter de joie. Hein. On va tous se retrouver dehors, ou j'en sais rien. Parce qu'ils parlent de repreneurs, mais bon, pour l'instant, il n'y a rien de fait. Hein. C'est un peu du vent. Il n'y a rien de concret, quoi. Il y en a qui vont se retrouver à la porte quand même. Hein. Bon, moi, j'ai 55 ans, je sais pas où je vais aller, j'en sais rien. Pff. On est un peu dans le brouillard, hein. Tout ça.
Vous avez commencé à réfléchir à après ?
Après, non, pas vraiment. Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont faire de nous. Est-ce qu'ils vont me mettre en retraite ? Est-ce qu'ils vont me reclasser ailleurs ? Non, bon, on ne sait pas. On imagine toutes les hypothèses, quoi. Il faut prendre tout en considération. On est un peu pessimiste, quand même.
Quand vous l'avez annoncé à votre famille ?
Oh, ils étaient surpris aussi. Hein. C'est comme les accidents de voiture, on croit toujours que c'est pour les autres. Ouais, d'accord. Puis en 86, ils ont déjà licencié aussi. Enfin, moi, j'y étais pas parce que je suis rentré en 94.
Et avant ?
Avant, je faisais de l'intérim. Puis avant, j'ai été licencié de chez Valeo en 88. Pareil, un plan social.
Donc c'est pas votre premier licenciement.
Ça sera la troisième fois. Là. Ouais. Mais bon, avant c'était plus facile. Il y a quand même plus de travail. Puis quand vous êtes plus jeune.
Est-ce que depuis que vous travaillez avec vos différents employeurs, vous avez vu une évolution dans les rapports sociaux ?
Bon, moi je parle pas de ton, j'écoute quoi.
Votre direction, bon, vous êtes 286 salariés. Ouais. Est-ce que votre direction connaît votre nom ?
Directeur, oui. Non, parce que là, c'est un nouveau directeur. Il est venu spécialement pour fermer l'entreprise. Celui d'avant, oui, il nous connaissait. C'est comme il est resté là plusieurs
années. Donc, il connaissait... Il connaissait certaines personnes, enfin, certains noms, quoi. Mais là, celui-là, non. Monsieur Carlos Ramos, non, il connaît pas nos noms.
Et le DRH, parce que c'est plus le rôle d'un directeur des ressources humaines de vous
DRH,
connaître.
Le DRH, c'est pareil, c'est un intérimaire. Donc il sait pas nous. Il ne nous connaît pas, il y a quelques mois qu'il est là. Je me rappelle celui d'avant, monsieur Prudhomme, ouais, il connaissait mon nom. Il disait bonjour monsieur. Ouais, j'ai pas dit mon nom.
Vous voulez rester anonyme.
Incognito. Voilà, ça va être retransmis tout ça.
Bah j'aimerais bien. Ouais. Vous voulez bien?
Ouais, ça me dérange pas.
On sent qu'il y a quand même une certaine frilosité de vos collègues à parler.
À parler
aux médias.
Ouais. Bah oui, les gens ils sont un peu fatigués. On est déjà fatigués à l'intérieur. L'ambiance, le plan social, on n'a plus trop la patate quoi. Enfin, on travaille mais des fois c'est un peu forcé quoi. Enfin ça dépend des gens. Bon ça va, moi j'ai toujours quand même la pêche quoi. Jamais baisser les bras. Sinon après c'est la dépression, c'est tout ce qu'on veut. Hein. D'ailleurs, il y en a des gens qui sont en dépression, hein, ils sont en arrêt. Hein. Après, je sais pas, on verra bien. Hein. L'avenir nous le dira. Ça sent, comment ça se négocie avec les syndicats. Quoi. Bon, je vais vous laisser.
Merci beaucoup.
On va aller manger.
François Gorlia pour la CGT Whirlpool et Frédéric Chanterelle pour la CFDT. C'est à vous que je vais poser cette question, reposer la même question. Est-ce que vous sentez une certaine forme de résignation chez vos collègues ?
Bah une forme de résignation, oui quand même. Mais après avoir écouté une fois de plus le désarroi d'un salarié, vous savez, moi ça me touche tous les jours. Hein, depuis le 24 janvier, je me souviendrai toujours de cette annonce... Puisque nous, en tant que représentants, nous l'a annoncé un peu avant. Je me vois encore assister à la réunion après par les deux dirigeants de Whirlpool qui ont moins de 6 mois dans l'entreprise, annoncer la fermeture du site. Si on avait annoncé une maladie aux gens, je crois que l'effet aurait été pareil. Et ça m'a quand même vachement touché de voir tous ces visages tomber, des pleurs... Voilà, la tristesse, elle est sur le terrain et je crois pas que ces gens de Whirlpool s'en rendent compte.
François Ruffin, il y a eu une époque, si on remonte un peu en arrière, où la moindre fermeture d'usine faisait descendre des centaines de personnes dans les rues, notamment d'Abbeville. Aujourd'hui...
De Ville, d'Amiens, enfin bon, je pense qu'effectivement... Le cas Whirlpool est malheureusement un symptôme de la résignation ambiante qui est pas propre au Whirlpool, mais enfin qui est particulièrement accentuée, et je dirais d'un état de dépression des classes populaires pour moi. De l'industrie, quand on entend ce salarié qui se prend 3 plans sociaux dans la figure, voilà, c'est 3 fois où on vous tape dessus, sur la tête, des coups sur la tête, bon bah à la fin, ça finit par... vous finissez par être assommé. Donc, et ça, c'est des familles entières qui connaissent ça et qui ont des histoires à se raconter les unes les autres. C'était tout un milieu populaire qui est bercé par ces plans sociaux en série. Et par ailleurs, donc il faut s'intéresser aux ouvriers de l'industrie, mais je dirais il y a toute une série de métiers qui sont supposés remplacer les métiers de l'industrie et où finalement on vit dans la même série de précarité permanente. Je vais citer les métiers d'auxiliaire de vie sociale pour les femmes, d'assistante maternelle, d'entretien, tous les métiers d'entretien où dans les grands groupes privés on a sous-traité, externalisé et en fait on a donné 2 heures par-ci, 2 heures par-là avec des contrats précaire et tout ça, mais même dans les lycées publics, dans les collèges, là, le département est en train de privatiser l'entretien, le gardiennage pour les hommes. Ce sont tous les métiers qui sont des métiers de classe populaire ont été précarisés. Du coup, il y a un symptôme dépressif qui hante pas seulement les ouvriers d'industrie, mais toutes les classes populaires. Ça me fait penser, moi, à un bouquin que... Enfin, j'avais interrogé un mec qui s'appelle Richard Wilkinson, qui est épidémiologiste en Grande-Bretagne, et qui me parlait de souris. Quand on leur injectait, on leur faisait des décharges électriques, ça produisait quelque chose au niveau de leur morphine, et puis tout ça, je sais pas trop, mais il y avait de l'adrénaline qui disparaissait. Enfin, je me souviens plus du nom des glandes qui fonctionnaient plus normalement, mais ça les mettait dans un état dépressif, et elles se retrouvaient en état d'impossibilité de communiquer avec leurs semblables, les souris. Et finalement, les chômeurs, pour moi, ils subissent, il disait lui-même, les chômeurs, en fait, ils produisent il y a les mêmes sécrétions, les mêmes glandes qui fonctionnent plus anormalement et tout ça, parce qu'il y a un symptôme de honte qui introduit la dépression et il y a une incapacité à communiquer avec les semblables. Mais je pense que plus massivement, c'est l'ensemble des classes populaires, c'est comme si ils se prenaient ces décharges électriques en permanence et que ça introduisait de la dépression et une difficulté à parler et puis à faire groupe, à faire corps, à faire collectif et à tenter quelque chose ensemble, quoi.
Alors pourtant, François Gorlia, c'est vrai qu'on est loin aujourd'hui à Walpole du climat qui régnait chez Goodyear sur le site d'Amiens Nord. Les pneus brûlés, les manifestations quotidiennes, une tension aussi entre salariés. Là, on n'est pas dans ce contexte-là.
Exactement. Mais la tension, elle est telle que de toute manière, chaque salarié actuellement se remonte l'un contre l'autre, on va dire entre parenthèses. Il y a un petit bruit d'un couloir, on arrive au bout, c'est carrément la débandade. C'est personne ne négocie ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous faites de bien pour nous et voilà pourquoi vous ne faites pas comme Goodyear. Hier, et c'est complètement différent. Nous, c'est une fermeture craque net au 24 janvier, on nous annonce ça. Les plans sociaux qu'on a fait avant, c'était restructuration de personnel, avec il y avait des engagements Whirlpool, tandis que là, il n'y a aucun engagement Whirlpool. Là, c'est une fermeture de site définitif.
Alors, pour Goodyear, l'acte ultime des représentants syndicaux et d'autres, c'était pas les seuls, c'était cette prise d'otage par des salariés et des syndicalistes de leur directeur... le mot est peut-être plus juste. Bon, de leur DRH en janvier 2014, et lors de leur procès, ils avaient justifié leur acte d'abord par le montant jugé indécent des indemnités de départ et par la violence des rapports sociaux, une direction qui n'apporte aucune réponse à la détresse sociale des ouvriers. Aujourd'hui, et plus globalement ces dernières années, parce que là, on entendait salariés nous dire la direction de Whirlpool, là, elle est là depuis janvier, mais globalement, comment ça s'est passé avec les directions successives? Est-ce que vous avez pu parler?
Ben, on s'est toujours mis à table, hein. Nous, organisation syndicale, on a toujours tout fait pour la pérennité de l'entreprise. On a fait des accords de compétitivité, des accords de flexibilité, on a fait un accord Optima, on a tout fait pour garder cette entreprise viable. Maintenant, quand j'entends parler de Goodyear ou d'autres entreprises où que le climat social était beaucoup plus tendu, il faut quand même se dire que ces gens n'ont fait qu'une seule chose, c'est de défendre leur emploi. Il faut pas jeter la pierre à Goodyear en disant c'était un climat social très dur, très voilà. Oui, il y a eu des dérives, hein. Vous savez, dans des guerres ou dans des dérives, il y en aura toujours. Mais arrêtons de dire les organisations syndicales n'ont pas fait ci, n'ont pas fait ça. On fait ce qu'on peut. Je pense que il faut arriver à quelque chose tous ensemble. Mais le principal responsable, ça reste quand même les multinationales. C'est eux qui se goinfrent à coups de milliards de dollars et c'est eux qui doivent payer.
En l'occurrence, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, représentants syndicaux. Est-ce qu'on vous a dit que vous étiez inemployable? Est-ce que le mot a vraiment été utilisé?
Le mot a été sorti lors d'une réunion. On nous a dit, avec votre tranche d'âge de 50 ans et vos problèmes de TMS, de santé...
TMS, c'est les maladies musculo-squelettiques.
Oui, c'est ça. Vous devenez des employés inemployables. Ça a été dit par notre ancien directeur. Donc forcément, ça a touché beaucoup de gens. Voilà à quoi on est confronté tous les jours.
Mais alors, heureux êtes-vous qui avez eu à disposition une cellule de soutien psychologique? Décidément, ce genre de choses, personne n'y coupe. Ça a donné quoi? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que ce qu'un DRH devait vous proposer, finalement, c'est un psychologue qui est venu l'offrir. On vous a envoyé un psychologue pour vous écouter?
On n'a pas encore de retour, hein, sur tout ce qui est ces cellules psychologiques. C'est tout nouveau, hein. C'est comme la loi Florange. C'est des trucs qu'ils mettent en place tellement il y a des restructurations dans la région et dans la Navarre, hein, de la France. Je pense qu'ils ont voulu mettre en place tous ces lois-là de psychologues, de fleurange, voilà, pour essayer de calmer les et de se mettre à table pour différentes raisons.
François Ruffin, on sait ce que sont devenus, alors le site d'Amiens comptait jusqu'à 1300 salariés il y a encore 15 ans, est-ce qu'on sait ce que sont devenus tous ceux qui sont partis depuis ?
De Whirlpool ?
Ouais.
Moi, j'avais fait des... Mais c'était après le plan social de 2002. J'avais été un peu regardé, mais je sais pas trop. Mais je reviens juste sur où est la violence. On sait que chez les Conti, il y a eu, je crois, 7 ou 9 suicides. On en a compté déjà quelques-uns chez les Goudieurs. Je voudrais savoir combien d'actionnaires se sont suicidés suite au plan sociaux ou combien de PDG se sont suicidés. Donc, il faut quand même replacer de quel côté est la violence. Voilà. Et donc, après... oui, voilà.
Mais d'ailleurs, est-ce que le fait que des délégués syndicaux soient passés et échappés de peu à la prison ferme, encore une fois pour revenir à Goudieurs, c'était en appel, est-ce que c'est de nature à tempérer vos ardeurs ?
Pas spécialement à dire, hein. De toute manière, bon, comme on disait, de toute manière, tout à l'heure, on a ouvert le PSE et voilà, bon, pour l'instant, on n'est pas encore sorti à dire mettre le feu ou aller contre, à l'encontre de Whirlpool, mais ça, ce qui n'est pas c'est pas complètement arrêté, hein. Demain, ça peut être très dangereux pour eux, quoi.
Alors, le PSE, c'est le plan de sauvegarde de l'emploi. Donc, qu'est-ce que cela vous en est tout dans vos négociations en ce moment ?
Dans le livre 1, en fin de compte, on est sur le livre 1, les reclassements et tout ce qui met en fin de compte les lois, quoi, les bases. Hein. Mais dessus, là, sur un livre 1 qu'on vient d'ouvrir, ils remettent plusieurs choses en même temps sur la table. Hein, ce qui, dans la tête des salariés, leur plaît pas, on va dire, avec un livre 1, on n'avance pas. Des repreneurs, le livre 2, le repreneur, on ne l'a pas encore ouvert. Et c'est tout ça, dans la tête des gens, c'est complètement différent. Quoi.
Donc c'est à la fois négocié sur les indemnités de licenciement et sur un repreneur. Voilà, quelles sont les pistes évoquées aujourd'hui pour une éventuelle reprise et celles dont vous parlez entre vous ?
Ben vous savez, nous, salariés de Whirlpool, hein, ce qu'on veut avant tout, c'est du travail. Du travail, certes, tout le monde en veut. Mais on veut aussi que Whirlpool indemnise chaque salarié du préjudice. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans un premier temps, c'est Whirlpool qui fait une délocalisation. Et Whirlpool a touché de l'argent de l'État pendant des nombreuses années, continue à en toucher, hein, sur le CIR, CICE, les réductions Fillon. Tout ça, c'est de l'argent du contribuable. Et alors Whirlpool est prêt à céder ses locaux, est prêt à donner de l'argent. L'État est prêt aussi à donner de l'argent pour la réindustrialisation. Alors forcément, la mariée est tellement belle que n'importe quel repreneur le veut. Vous savez, on a même eu une entreprise qui était pas viable avec son porte-monnaie, puisqu'elle était avec un déficit de, je sais plus, 20 millions d'euros. Vous savez, quand on met bout à bout tout ce que l'État ou Whirlpool est prêt à donner, ces repreneurs-là prennent cet argent, renfouent leur société et s'en vont.
Bon, aujourd'hui, on entend une entreprise, une direction d'entreprise qui se targue presque de chercher des repreneurs à tout prix, mais c'est une obligation imposée par la loi, c'est de toute façon François Ruffin.
Moi, je suis... Il faut s'il y a des emplois qui sont préservés, allons-y. Hein. Mais il y a un truc en économie, on a pu le vérifier à de nombreuses reprises dans la région, à commencer par mon héros Bernard Arnault de Merci Patron, il y a un truc qui s'appelle la défaisance. C'est-à-dire que quand ça va mal, c'est sur les crises industrielles que se font aussi des fortunes. Quand ça va mal, on rachète, on garantit, on habille la mariée et tout ça, et on a la certitude derrière que voilà, on va faire du plan social à moindre coût. Je vais donner un exemple qui est celui, il y a Bernard Arnault, mais il y a la famille Parisot qui était dans le coin aussi avec les meubles à Berthaud-Cours-les-Dames, où là, Parisot s'est désengagé, du coup a fait partir tout en Roumanie, enfin sa production en Roumanie, mais s'ils avaient fait le plan social eux-mêmes, comme c'est un groupe qui a de l'argent, ils auraient dû payer pour ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont trouvé un faux repreneur, c'était des cadres de l'entreprise en l'occurrence, ils ont reçu 1 million d'euros de la région, et au bout d'un an, ils ont mis la clé sous la porte. Les cadres ont mis la clé sous les portes. Les salariés ont tenté de se retourner contre les cadres, mais les cadres ont dit « Regardez mes poches, elles sont vides ». Donc du coup, il n'y a pas eu de plan social et les gars sont partis en slip. Donc c'est vrai que ce problème de défaisance que j'ai déjà pu observer à de nombreuses reprises, il faut y faire très attention. C'est-à-dire qu'il faut que Whirlpool mette... Maintenant, ce qui est dommage, c'est que là... Ça dit l'état de résignation, c'est que tout ce qu'on peut faire, c'est négocier la taille de la serpillière, quoi. On sait qu'il va y avoir des catastrophes, des catastrophes, des catastrophes, et tout ce qu'on fait, c'est se dire, bon, bah voilà, comment on fait pour qu'on puisse essorer le mieux possible, que ça soit le moins catastrophique possible, et ainsi de suite. Moi, je pense à autre chose. D'abord, je veux penser aux intérimaires. Je pense qu'il faut pas. Ce sont des intérimaires qui sont là depuis des années en fait, hein, qui sont quasiment intégrés au fonctionnement de l'usine. L'usine a décidé de fonctionner avec une précarité qui est énorme, et je pense qu'un plan social doit aussi intégrer les intérimaires et pas les laisser sur la touche. Et moi, je pense que dans tous les plans sociaux, on doit penser au suivant. C'est une donnée qui est, c'est-à-dire que quand une multinationale peut avoir le pognon pour en effet faire sortir les gens qui sont dans l'usine en mettant du fric à l'intérieur. Mais maintenant, ça n'empêche que pour tout le bassin d'emploi, c'est en fait une disparition nette d'emplois peu qualifiés, mais qui étaient structurés, où il y avait un comité d'entreprise, qui était mieux payé que la moyenne et tout ça, et qui disparaissent. Pourquoi la zone, pourquoi le quartier Nord d'Amiens s'est mal porté à un moment et tout va toujours mal sur le plan du chômage? Le quartier Nord d'Amiens est adossé à la zone industrielle d'Amiens. Il était là pour fournir de la main d'œuvre à la zone industrielle. Si derrière vous foutez en l'air la zone industrielle, forcément, donc ça se dégrésagrège dans le quartier Nord qui est adossé. Mais donc voilà, le problème, c'est on va penser à faire sortir dans les meilleures conditions possibles les gens, et tant mieux. Enfin, et puis ça sera toujours des conditions qui seront pas suffisantes et qui viendront pas guérir le trauma. Mais derrière, ça crée un problème quand même pour le bassin d'emploi.
Ah, donc tous les dossiers de reprise doivent être minutieusement et très sérieusement étudiés. Je vous propose d'écouter Alain Geste, député Les Républicains de la Somme, président d'Amiens Métropole.
Bien sûr, on sait quel est le profil. La plupart des personnels de Whirlpool que j'ai rencontrés et dont je sais combien ils peuvent être inquiets, parce qu'il arrive que dans des circonstances pareilles, un, il n'y ait jamais de repreneur, ou deux, qu'il y ait quelquefois des repreneurs qui ne soient là que pour un temps limité. Donc on a bien ça en tête, et ce que l'on recherche, c'est de l'activité industrielle et susceptible effectivement de correspondre à ce qu'ils savent faire, quitte à ce qu'éventuellement il y ait des formations complémentaires qui puissent leur être données, mais c'est l'objectif. L'avantage dans le dispositif, c'est qu'on a exigé de Whirlpool que les locaux soient cédés. Pour nous, c'est l'euro symbolique. C'est-à-dire que bon, ils veulent partir, il faut qu'ils payent. Parce que moralement, si tant est que la morale dans ces affaires puisse être mise en avant, moralement, ils le doivent au personnel, qui est de bonne qualité, c'est eux-mêmes qui le disent. Et deuxièmement, nous sommes dans le dispositif de la loi Florange, et donc il y a l'obligation de retrouver effectivement une activité, et de faire en sorte que, bien sûr, elle corresponde au savoir-faire du personnel, bien évidemment. Hein ? Et donc, un investisseur, si en plus du personnel qualifié pour ce qu'il sait faire, trouve en même temps des lieux qui sont financièrement tout à fait abordables, évidemment, ça le motive davantage.
Qu'est-ce que peut le politique, et notamment le politique local, face à un groupe américain dont les décideurs sont à plusieurs milliers de kilomètres, qui utilise une novlangue parfois pour faire passer un discours avec des termes pas toujours très compréhensibles, qu'est-ce que vous, à votre niveau, vous pouvez, en tant à la fois que député de la Somme, que président d'Amiens Métropole, vous avez aussi été président du Conseil Général.
C'est ancien, ça.
C'est ancien, c'était il y a longtemps, mais c'était justement peut-être à une époque où on pouvait faire peut-être prévenir quelque chose.
En l'occurrence, on se doutait qu'il pouvait y avoir une mauvaise nouvelle compte tenu du rachat récent par Whirlpool de la société Indesit en Italie. Et on se disait, après tout, il peut y avoir des sites en double. Et donc, on avait des inquiétudes à ce sujet. Mais là, il ne s'agit pas de cette solution-là, il s'agit simplement de dire, on produit moins cher en Pologne, donc on va aller produire en Pologne. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, effectivement? Un élu ne peut pas tout. Mais montrer de la détermination, comme collectivement nous l'avons montré depuis le début, à savoir le gouvernement, la région Hauts-de-France, nous-mêmes à Amiens, c'est aussi signifier à l'entreprise, quelle que soit sa taille, qu'elle prend un bien gros risque en disant je ferme Amiens et je m'en préoccupe pas de la suite. Parce que quand même, le marché de l'électroménager et notamment du sèche-linge en France, c'est une grosse partie de son marché européen. Et s'ils veulent qu'on incite à boycotter le produit, on ira jusque-là. Mais pour l'heure, nous, ce que l'on veut, c'est qu'ils mettent tout en œuvre, y compris et surtout financièrement, pour que ce site soit attractif et que des gens se disent bah, « si j'ai envie de créer une activité, eh ben, je peux la faire là, dans de bonnes conditions ». Et on accompagnera éventuellement financièrement, si nous sommes sollicités, pour favoriser l'arrivée d'un ou de plusieurs repreneurs, compte tenu de la spécificité du site qui se prête à ce qu'il y ait deux, voire trois activités sur le même lieu.
Et ça, comment vous pouvez le leur dire? Est-ce que vous les voyez, les dirigeants du groupe? Est-ce que vous avez des, je sais pas, des visioconférences, puisque ça se fait aujourd'hui? Enfin, quels sont vos contacts avec eux?
Alors, en ce qui me concerne personnellement, Brigitte Fouret, maire d'Amiens et moi-même, nous avons eu une visioconférence, et également avec Xavier Bertrand, avec la direction européenne du groupe, qui ne s'est pas bien passée, parce que nous avons trouvé une écoute que nous avons jugée largement insuffisante compte tenu des circonstances. Deuxièmement, le secrétaire d'État en charge de l'industrie, Monsieur Sirugue, a eu également un contact difficile qui a amené le Premier ministre en personne à convoquer le président Monde de Whirlpool, qui est venu dans les 48 heures et qui a montré une oreille beaucoup plus attentive que ses collaborateurs. Et, comment dirais-je, on fait en sorte de bien faire comprendre à Whirlpool qu'on n'a pas l'intention de les laisser partir sans qu'il y ait à la place autre chose pour le personnel qui, malheureusement, sinon, se retrouvera sans emploi en juin 2018.
Dans l'OP, Cyclam, Automotive, ce sont des entreprises dont, très souvent, on se demande combien de temps encore elles vont tenir. Le bassin d'Amiens est sinistré, le bassin d'emploi est sinistré. C'est pour ça que cette question de la reconversion des ouvriers, que ce soit de Whirlpool ou d'autres groupes, évidemment prend une autre dimension, pose des questions d'ordre plus large.
Oui, vous auriez pu dire aussi que Amazon vient de décider de s'installer à Amiens et de créer au minimum 500 emplois, que actuellement Procter & Gamble est en train d'embaucher, que Valeo est en train d'embaucher, que nous avons toujours une politique de centre d'appel très opérationnelle puisque le groupe Coriolis embauche une centaine de personnes à Amiens, que nous avons une entreprise dans le domaine de la logistique qui va s'installer bientôt, que nous aurons la semaine prochaine certainement de nouveau bonne nouvelle, si je puis dire, dans un autre domaine, plutôt sur le domaine du numérique. Donc évidemment, on s'intéresse aux problèmes que nous rencontrons. Mais ça n'est pas ça, le visage d'Amiens. Le visage d'Amiens, il est partagé entre les bonnes et les moins bonnes nouvelles.
Mais tout doucement, Alain Geste, Amiens, la Somme, sont en train de tourner une page de leur histoire, une page ouvrière.
Je ne suis pas complètement convaincu. On a encore une zone industrielle extrêmement importante. Donc effectivement, on a connu, comme beaucoup d'autres sites en France, une désindustrialisation. Personne ne le nie. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui qu'Amiens est désindustrialisé. On a eu une grosse catastrophe, c'est Goodyear. On a là, avec Whirlpool, une très mauvaise nouvelle. Et je ne doute pas qu'avec tous les efforts qui sont fournis sur ce dossier, nous puissions compenser, en emploi industriel, j'insiste, ce qui va se perdre avec le départ de Whirlpool.
Alain Geste, député Les Républicains de la Somme, président d'Amiens Métropole, François Gorlia pour la CGT, Amazon, plus d'un millier d'emplois bientôt sur Amiens, ça vous intéresse? Comment?
500.
Alors il dit 500 officiellement et qu'en fait ce sont des chiffres qui correspondent à un tableau.
À Noël, quoi.
D'accord,
voilà.
À Noël, ouais.
Au moment de grosses commandes, il y aura du monde.
Donc par l'intérim en fait, c'est
voilà,
ça.
Ouais.
Mais donc je sais pas, ça intéresse les ouvriers de Whirlpool, non? Parce que on nous le présente seulement comme une bonne nouvelle.
Oui, bien sûr, avec des personnes de 48 ans d'âge, vraiment 48 ans âge moyen, Whirlpool, les problèmes de 20 ans d'ancienneté dans une entreprise et retravailler chez Amazon, je pense que c'est pas du tout le même rythme de travail.
Vous voyez pas parcourir les hangars en patin à roulettes.
Les conditions de travail, ça doit pas être du tout efficace, hein, pour nous. Franchement, là, ça va être quelque chose de très dur.
Alors, d'autant, je crois que certains salariés ont commencé chez vous, chez Whirlpool, à chercher ailleurs pour tout simplement se garantir un avenir, mais que certains n'ont pas le droit, c'est ça, Frédéric Chantrel ?
Oui, effectivement, c'est parce qu'ils sont en train de classer tous les salariés dans des catégories qu'on appelle, nous, professionnels, hein, avec des couleurs vertes, couleurs orange et couleur rouge. Alors nous ouvriers, on est vert, celui qui a un emploi un peu plus dur, il est orange, et celui responsabilité ou avec des vrais on va dire un vrai métier, outilleur, ils sont classés dans la catégorie rouge. Alors eux, on les laisse pas partir, on leur dit qu'ils vont perdre leur emploi dans 14 mois, mais on leur dit surtout vous partez pas. Même s'ils ont des bonnes opportunités, hein, on est en train de faire trois dossiers là qu'on a pu se dépatouiller. Et voilà, ils classent les gens avec des couleurs.
Ils ont le petit bracelet rouge qui les maintient à résidence.
Voilà, c'est ça.
François Ruffin, finalement, est-ce qu'on ne peut pas aussi entendre Alain Gest quand il dit que c'est une bonne nouvelle qu'Amiens ait des occasions de développement nouveau pour reprendre ces termes, qu'on va vers des nouveaux métiers, qu'on va vers des métiers moins pénibles, qu'on est dans le tertiaire, voilà. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce discours-là?
Il n'a pas dit que c'était des emplois moins pénibles, et puis ça serait tout à fait contestable.
J'ai dit moins payé
Moins payé, non, moins pénible.
Moins pénible, d'accord.
Parce que, je veux dire, chez Amazon, il y a quand même un certain nombre de bouquins qui sont parus sur ce qui se passe chez Amazon. C'est quand même loin d'être la joie. Les centres d'appel, c'est une pression psychologique, mais qui est ce sont des métiers très intenses. Et je veux pas peindre en rose l'industrie, mais la situation de l'emploi dans les industries a pu s'améliorer, notamment au cours des années 80 et ainsi de suite. Se détériore parce que il y a eu une intensification du travail aussi, ainsi de suite. Mais enfin bon, il faudrait pas voir l'industrie comme étant seulement la descente à la mine d'où on revient couvert et tout ça. Ça a été le lieu de conquête sociale où on a eu chez Goodyear et même chez Whirlpool avant cette pression sur les salaires, mais où on avait des salaires qui étaient quand même relativement satisfaisants. Chez Procter & Gamble par exemple sur Amiens, c'est une boîte qui continue à bien payer, c'est à cette réputation-là. Donc la disparition de l'industrie n'est pas automatiquement remplacée par des emplois qui sont équivalents en termes de salaire, de garantie de travail, de contrat de travail sécurisé, puisqu'on peut y passer 10, 15, 20 ans et ainsi de suite. Donc là, on s'est pas rempli ça équivalent. Moi, je voudrais revenir sur juste un point du témoignage d'Alain Gest. Vous l'avez présenté comme étant un élu local, le pouvoir local. Mais on a là un député. C'est-à-dire que ça n'est pas seulement que du pouvoir local, c'est du pouvoir national. Et à un moment, il y a des choix qui sont faits par les élus au niveau national et qui produisent des catastrophes au niveau local et qui sont regrettés par les élus locaux alors que c'est eux-mêmes qui les ont mis en place au niveau national.
Mais là, Bernard Cazeneuve a proposé 220 millions d'euros à la région et le TGV.
Oui, je pense que vous demanderez s'ils ont envie de prendre le TGV régulièrement, mais voilà. Mais je veux dire, maintenant, quand on construit une ligne de train, on va dire que c'est pour remplacer une usine. Non, on peut faire du développement du ferroviaire sans que c'est aucun lien avec la situation des entreprises. Mais je veux dire, en l'occurrence, Alain Gest a accepté l'élargissement européen au niveau national. Ces formations ont accepté l'acte unique européen, un certain nombre de trucs comme ça, qui font que c'est parti en cascade. Il faut se souvenir qu'en 1989, Whirlpool avait 38 usines dans les 12 pays de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il y avait une usine de production de lave-linge par pays, par grand pays. Pour la France, il y avait une usine de lave-linge. Pour l'Italie, il y avait une usine de lave-linge. Pour, vous voyez, ainsi de suite. Bon, et maintenant, on est arrivé à une usine de lave-linge pour les 27 pays. Donc, c'est ce qu'ils appellent les économies d'échelle. Et ça a été permis parce que le politique a souhaité appuyer les multinationales pour aller dans cette direction-là.
Il y a de toute façon un rouleau compresseur au niveau européen qui touche tous les ouvriers et aussi ceux de Pologne. Et vous le disiez tout à l'heure, François Ruffin. En tout cas, Frédéric Chantrel, quand on s'est vu mercredi devant l'usine, vous m'avez dit, si vous voulez interpeller les ouvriers qui sortent, allez-y, mais surtout, leur demandez pas à brûle pour point de parler politique. Ça tombe bien, c'était pas le but. Mais en tout cas, il y a une vraie crispation sur les questions politiques.
Oui, ben on l'a vu ces derniers temps. Hein. Je me souviens, moi aussi, avoir vu notre président de la République monter sur les camions à dire « Moi, président, je vais m'attaquer à la finance. Moi, président, ceci n'arrivera plus.
» Et puis, plus proche de vous, il a été à Goodyear, chez Goodyear aussi,
François Hollande. Oui, c'est justement pour ça. Alors, comment voulez-vous avoir un bon œil sur ces gens-là qui prêchent des paroles qui ne mènent pas en acte, hein. Des paroles, oui, mais des actes, il y en a jamais.
François Gorlia, vous avez déjà eu un coup de fil d'Emmanuel Macron qui a promis de venir vous voir sans caméra à l'émission politique.
Déjà, je pense pas qu'il ait mon numéro perso, mais bon, toute manière, même si jamais je l'ai au bout du fil, je ne sais même pas si jamais j'arriverai à lui parler, encore à prononcer quoi que ce soit envers cette personne, de toute manière.
Mais vous avez souvent des partis qui viennent tracter, des gens qui viennent tracter
Ah oui, bien sûr, ils sont déjà venus, il y a pas mal de partis qui sont venus, maintenant ils étaient bienvenus, ils ont parlé à droite à gauche, bon, comme François Ruffin le fait très bien, comme il l'a encore fait hier, face à Emmanuel Macron, et ça là-dessus on le remercie encore, parce que sans notre demande ou quoi que ce soit, il intervient envers ces gens-là quand même, et ça, encore un grand merci.
Donc ça c'est vous délégué syndical CGT qui le dites, mais François Ruffin, je voulais vous poser cette question, on n'a pas encore parlé de votre candidature aux législatives pour cette année, dans la première circonscription de la Somme, à la tête d'une coalition qui réunit communistes, mélenchoniste et écologiste. Est-ce que vous n'avez pas pris le risque de perdre une part de confiance que vous accordez les ouvriers de Picardie en étant désormais étiqueté comme politique?
De toute façon, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu un référendum pour mesurer ma part de confiance chez les ouvriers de Picardie. Non, moi, ça fait 18 ans que je me bagarre avec mes armes, à savoir le stylo que je tiens dans ma main le plus généralement, ou alors avec le verre, mais j'en mesure les limites aussi. Et à un moment, je pense qu'il y a des choix qui sont au niveau de la représentation nationale et que ce qui se passe ici, qui est... des porte-voix, je pense qu'il y a un besoin de porte-voix chez les gens. Et bon, de toute façon, il y a une bagarre qui est engagée. Il y a une bagarre qui est engagée autour du site de Whirlpool, parce qu'on peut ne pas parler politique, il n'empêche que la politique, elle germe et que les gens, ils en parlent quand même et que ça existe. Bon, moi, il y a un premier combat sur le site de Whirlpool, ça a été de venir dire qui est le responsable de ça. Le responsable de ça, parce que la tête, le gars, son nom était inconnu. Jeff Fettig, PDG de Whirlpool. Son nom est inconnu. Ses revenus étaient inconnus. 13,5 millions d'euros, c'est-à-dire autant que les 290 salariés de Whirlpool, les 50 du sous-traitant Prima, les 100 intérimaires. Je suis venu apporter une image de son château, de sa maison. Pourquoi? Parce que si jamais ils sortaient de l'usine et qu'ils avaient en face de chez eux le château de ce PDG, ils seraient écœurés et leur adversaire, ils le verraient qui c'est leur adversaire. C'est ce qui se passait auparavant chez Saint-Frère ou dans le milieu de Fixe-Cours, les gens qui sortaient de l'usine, ils voyaient directement le château des Frères Saint et ça fait qu'il y a un ou deux châteaux qui ont cramé et puis que les manifs, elles se terminaient là. Donc voilà, il s'agit de réintroduire cette conflictualité, de remontrer qui est le véritable adversaire, parce que si on fait pas ce travail-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais vous le, je veux dire, c'est pas c'est empirique, on va discuter à la sortie de l'usine et ça tape sur l'assisté, que je suis désolé, mais j'espère que ça sera pas le cas, mais qu'il y a le risque qu'un certain nombre de salariés de Whirlpool se retrouvent à être assistés demain et ça sera pas la joie pour eux, et c'est pas ce que je leur souhaite, mais il y a ce risque où ça tape sur le réfugié. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est montré à la télé. Malheureusement, Jeff Fettig, PDG de Whirlpool, est rarement montré à la télévision en train de vivre sa belle vie, et puis c'est ce qu'ils voient dans leur proximité et tout ça. Il y a toujours un chômeur qui cherche pas vraiment du travail dans sa rue, dans son quartier, dans son immeuble, dans son machin. Enfin, vous voyez, donc c'est ça, et donc c'est à partir de ça que va se faire la politique. Et donc il y a une bataille qui est engagée, très concrètement, aujourd'hui, est-ce que c'est le Front National qui est le porteur de voix des ouvriers dans la détresse, puisque c'est vers le vote Front National que se dirige quand même pas mal de suffrages ouvriers.
Alors pour conclure, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, je sais que vous ne voulez pas parler politique, mais est-ce que ce discours-là a un écho, notamment chez vous et puis chez les salariés que vous représentez?
Depuis le début, moi je le clame haut et fort, hein, je suis quand même plus proche d'un François Ruffin qui a l'écran qu'un François Hollande qui nous prend pour descendant, hein, pour prendre une expression de François.
Mais il y a un débat dans l'usine aussi, certains veulent se, ouais, veulent mais se bah, tenir vous savez, hein,
dans des,
de toute politique.
Dans des usines, il y a des partis politiques, hein, il y a des droites, gauches, des extrêmes, donc voilà, mais je vous le répète, on est fiers que François Ruffin, à chaque apparition, monte notre désarroi, et ça, on lui tire notre chapeau, et on le remercie encore, et j'espère qu'il sera toujours derrière nous.
Voilà, je voulais juste terminer sur ce calendrier chez Whirlpool, 27 avril, grosse réunion pour décider de la suite.
Je pense que les salariés, de toute manière, là, c'est la mobilité, enfin, on va demander vraiment aux salariés là, d'être derrière nous, parce que c'est là, ça va être des réunions les plus importantes.
Voilà, manifestation notamment à Paris, merci à vous trois d'avoir été avec nous, François Ruffin, François Gorlia pour la CGT et Frédéric Chantrel de la CFDT Whirlpool. François Ruffin, je crois que Merci Patron continue à circuler. Alors on ne l'a pas fait exprès, mais la semaine prochaine on sera à Val-de-Reuil, commune dont le maire apparaît dans votre film, mais on ira surtout parler des habitants. Notre petite entreprise poursuit sa route. Yvon Croisier au volant, copilote Sophie Bobert. Merci à France Bleu Picardie pour son accueil. À la technique, c'était Benjamin Gouachon. Encore deux mots pour vous dire que vous pouvez commenter et podcaster cette émission sur le site de France Culture à la page de Sur la route. Il est bientôt 19h, l'heure de retrouver Marie-Hélène Fraissé pour Tout un monde.